Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Quelle chance d'être parisien. Hier, on pouvait circuler dans le centre-ville sans crainte de s'y faire écraser par autre chose que des poussettes et des bicyclettes. C'était la journée sans voiture. Samedi prochain, on pourra se promener en famille dans les allées du parc des expos de la Porte de Versailles. C'est le début du mondial de l'auto. Encore que, s'agissant de ce dernier rendez-vous, on ne voit pas très bien ce que des Parisiens pourraient avoir à y faire. La voiture n'est plus la bienvenue dans la capitale. Le Conseil de Paris a d'ailleurs adopté ce lundi la piétonnisation permanente d'une large partie de la rive droite des berges de la Seine. L'objectif est louable, comme d'autres villes avant elle. Paris entend lutter contre la pollution de l'air et faire de cette lutte un élément de son attractivité. Sauf que le projet provoque l'amertume de nombreux maires de banlieue qui voient une mesure discriminatoire à l'égard de leurs administrés en l'absence d'une offre suffisante de transport en commun. Discriminante, la piétonnisation le serait aussi d'un point de vue social, car vivre en centre-ville n'est pas à la portée de toutes les bourses. Se priver de voiture devient presque un privilège dans une société où ce mode de transport est un sésame pour accéder au marché de l'emploi. Alors, qui a les moyens d'être piéton? Eh bien, c'est la question que nous allons poser ce soir à Marie Chéron. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre de la Fondation Nicolas Hulot. Vous y êtes en charge du projet Mobilité. Pour discuter avec vous, Mathieu Flonneau, bonsoir.
Bonsoir.
Historien, spécialiste de l'histoire des mobilités. Vous avez publié aux éditions de l'Aube il y a quelques semaines de cela. Vive la route, vive la République. J'espère qu'on a bien entendu les points d'exclamation. Et puis notre troisième invité se trouve en duplex des studios de France Bleu à Aix-en-Provence. Il s'agit d'Hélène Régnier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politiste, professeur à l'Institut d'urbanisme et d'aménagement régional à l'Université d'Aix-en-Provence. Vous avez publié en 2013 aux Presses universitaires de Rennes « Dictionnaire critique de la ville mobile, verte et sûre ». Alors avant d'examiner les effets positifs ou négatifs qui peuvent être engendrés par la piétonnisation des villes, je voudrais d'abord savoir si vous considérez les uns et les autres comme légitimes les objectifs qui sont liés à cette piétonnisation, à savoir lutter contre la pollution de l'air, même si l'automobile n'a qu'une part minoritaire dans cette pollution. Le trafic routier, c'est 28% des émissions de gaz à effet de serre en France. C'est minoritaire, mais enfin, ça n'est pas rien non plus. Est-ce que vous considérez donc comme légitime, Mathieu Flonneau, que certaines villes décident de réduire en tout cas la part de la voiture?
En un mot, oui, mais en réfléchissant bien, il y a des arrière-pensées derrière ces questions que votre émission, dont le titre est particulièrement bien choisi, explore. Il faut poser la question plus généralement en termes sociaux, en termes politiques, en termes culturels. Donc c'est pas qu'une réponse technique à cette question que l'on doit faire. Je reviendrai évidemment là-dessus.
Marie Chéron.
Oui, bien sûr, la piétonnisation est une des actions prioritaires en termes de santé publique. Ce n'est pas la seule. Elle doit être accompagnée d'un panel d'actions qui auront vocation à repartager la ville pour donner de la place à la fois aux piétons, à la fois aux automobilistes. Il ne s'agit pas de tirer à boulet rouge sur les automobilistes, mais simplement de repartager l'espace public de manière plus équitable. Et donc, de la même manière, oui, il faut un peu dépasser la question unique de la piétonisation et d'une mesure un peu phare pour réfléchir un peu plus largement à l'évolution de l'urbanisme et à la configuration de la ville durable de demain.
Est-ce que c'est dans cet esprit que vous semble mener aujourd'hui les projets de piétonisation, Hélène Régnier?
Alors, moi, je pense qu'il y a effectivement urgence à freiner le système automobile et que les acteurs publics, les politiques urbaines ont un rôle à jouer. Que cette action, elle doit être menée globalement pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, les particules fines, qu'il y a des enjeux de réchauffement climatique lourds. Mais je pense aussi que on est un petit peu loin du compte avec ces projets de piétonisation, parce que les périmètres sont très restreints, les localisations sont très très centrales. Donc on n'enlève pas l'automobile partout, on les enlève dans des micro-espaces souvent très symboliques, patrimoniaux. À Paris, c'est sur un périmètre qui est patrimoine mondial de l'UNESCO, me semble-t-il.
Les voies sur berge,
on les enlève
cas,
pas
voilà.
Partout. Oui, on ne les enlève pas partout. Et puis...
Est-ce que ça veut dire que pour vous, par exemple, Hélène Régnier, est-ce que ça veut dire qu'on a tendance à reporter ailleurs les problèmes liés au trafic automobile, à savoir donc le bruit, la dangerosité du trafic automobile, et puis bien entendu la pollution? Ou bien est-ce que ce que disent certains d'ailleurs, c'est qu'il y aurait un effet d'évaporation, c'est-à-dire finalement les pratiques finissent par être modifiées et que quand on piétonnise un peu les villes, on finit aussi par réduire ailleurs le trafic automobile?
Alors les évaluations sont toujours délicates à mener. Il y a la question du temps, du temps long. Ce dont on est à peu près sûr, c'est qu'au moment de la mise en place de ces projets, on observe effectivement des reports de trafic. Donc on ne diminue pas l'usage de la voiture, mais on le déplace. Ce qu'on observe aussi, c'est que très souvent, ces projets s'accompagnent de politiques, de projets assez accueillants pour l'automobile en souterrain. C'est-à-dire qu'on enlève la voiture en surface, mais on continue de l'accueillir, notamment avec des parkings souterrains payants, dans des ouvrages souterrains.
Quand on dit qu'on reporte alors le trafic automobile sur d'autres zones, Marie Chéron, il y avait hier dans le journal du dimanche une première étude sur les effets de la piétonnisation pendant l'été des voies sur berge à Paris. Il y avait un constat d'une augmentation importante ailleurs que là où bien sûr c'est piétonnisé du trafic automobile, mais moins importante finalement que ce qui était craint.
Bien sûr, il y a un effet d'évaporation, enfin, vous l'avez mentionné vous-même. C'est-à-dire que quand on coupe une zone de 3 km, là en l'occurrence c'est 3,3 km, il n'y a pas de report automatique. C'est-à-dire que les gens vont modifier leur comportement, soit en changeant de trajectoire, soit en adoptant d'autres modes de transport. Je crois que l'enjeu, il est là, c'est-à-dire que cette mesure de piétonnisation, elle vise pas juste à repousser le trafic, mais elle va dans le sens d'un changement des modes de transport. Aujourd'hui, on peut se déplacer autrement qu'en voiture, on peut cumuler différents modes de transport, et c'est dans cette lignée-là qu'il faut aller, et non pas sur juste un report de l'automobile. Aujourd'hui, l'automobile ne peut plus être le mode de transport principal, premier des Français, et surtout pas en ville.
Vous évoquiez tout à l'heure, Mathieu Flonneau, des arrière-pensées qui seraient liées à ces politiques de piétonnisation. Est-ce que vous considérez, par exemple, qu'aujourd'hui, les villes comme Paris, mais c'est pas la seule à mener ce genre de politique, piétonnisent sans véritablement se soucier de ce qui va se passer ailleurs, ou au contraire, peut-être en s'en souciant, mais en faisant en sorte, justement, que ce soit la périphérie qui ait à gérer ces problèmes?
Oui, alors la réponse est oui. Et je pense qu'il faut politiser totalement le débat. C'est-à-dire que le débat n'est pas un débat de clivage gauche-droite, contrairement à ce que l'on voudrait bien nous faire croire parfois. Et il y a une construction artificielle qui explose évidemment dès qu'on est au niveau de la région, Île-de-France, puisque des députés socialistes comme Olivier Faure ont pris des positions modérées vis-à-vis des décisions du centre-ville parisien. Donc il y a là des éléments à prendre en considération par rapport à ce que j'appellerais moi quand même, parce que vous avez employé à trois reprises un mot comme étant évident. Je sais quels chercheurs l'ont creusé, ce concept d'évaporation. Je sais qu'ils ne sont pas, et c'est leur rôle de chercheur aussi, exempts de tout militantisme par ailleurs, mais quand même il faut rappeler que la parole est ici localisée et qu'elle provient de personnalités qui sont engagées légitimement, peut-être, mais dans une perspective plutôt d'écologisme politique. Donc cette donnée-là, elle est très prenante et elle doit être rappelée. De surcroît, cette dimension d'évaporation suggère, et le moindre chimiste vous le dira, une condensation ailleurs. Et cette condensation qui se passe ailleurs, il est très clair qu'en banlieue parisienne, on découvre des encombrements, les encombrements sont désormais périphériques. Et qu'à l'échelle nationale, eh bien, il y a quelques centres-villes qui peuvent se permettre à grand renfort de publicité, de communication, d'approbation collective. Personne n'est contre ces piétonnisations éventuellement temporaires de l'espace public. Il y a une question de mixité de l'espace et de pluralité des cultures de transport. Et en exclure idéologiquement l'automobile est une posture, véritablement une posture, qui à mon sens ne traduit aucun sens de l'histoire, mais traduit de fait une capitalisation des centres-villes et une boboïsation, pardon d'employer ce terme vulgaire, mais une forme de sociologie différente des centres-villes.
Je voudrais encore rester quand même sur cette notion justement d'évaporation, parce que ce que vous dites, Mathieu Flonneau, c'est quoi là ? On a des militants finalement qui militent pour cette idée-là, alors quoi ? Alors que les études finalement tendrait à montrer le contraire.
Des études montrent que en périphérie, la circulation ne diminue en aucun cas, que l'on vous a vendu des tramways de province très chers dans les centres-villes, alors que dans des villes comme Nantes, comme Strasbourg, comme Bordeaux, comme Orléans, on a construit aussi des infrastructures routières nécessaires aux gens pour desservir des agglomérations qui se sont de plus en plus étendues en taches d'huile. Donc il y a une contradiction entre des politiques de centre-ville qui bénéficient d'effets d'aubaine pour des populations qui, et le cas parisien est paradigmatique de ce point de vue-là, tous les modes de transport y sont représentés. Ce qui est derrière, c'est aussi l'idée de promouvoir quand même un tramway le long des berges de la Seine. Cette idée va arriver. Paris a-t-elle besoin d'un nouveau mode de transport lourd en centre-ville ? C'est une question qu'il faut poser au regard de la comparaison que l'on peut faire avec des périphéries qui, elles, sont démunies de transport public.
Hélène Aragnier et Marie Chéron, sur cette question quand même de la fiabilité des données, à partir desquelles on peut justement mesurer les effets de la piétonnisation. Vous en pensez quoi, Hélène Aragnier ?
Alors, je suis, comme Mathieu Fonneau, partisane d'un changement d'échelle sur cette question. C'est-à-dire que si la ville de Paris met en avant l'enjeu de la lutte contre la pollution pour se défendre et justifier ce projet, elle met aussi en avant l'enjeu du rayonnement et de l'attractivité de Paris. Et être une métropole attractive aujourd'hui, on le voit dans de nombreuses villes, c'est à la fois offrir des espaces de qualité urbaine dans les espaces les plus centraux et simultanément, dans la métropole des flux, pouvoir offrir en périphérie des infrastructures, y compris routières, qui peuvent accueillir de forts trafics avec des hauts niveaux de vitesse. Donc quand on change d'échelle, on est loin de freiner le système automobile.
Marie Chéron.
Pour moi, j'aurais tendance à proposer de renverser la question. Plutôt que de parler de report des automobilistes sur les zones de banlieue, pour penser la politique urbaine de demain, est-ce qu'on peut se poser la question de pourquoi ne peut-on pas aujourd'hui avoir des initiatives telles que celle de la piétonnisation, non pas uniquement dans les centres urbains, mais aussi dans les zones un peu plus périphériques. Et là, on vient questionner un peu le modèle urbain français qui est extrêmement centralisé. Et je suis désolée, mais cette piétonnisation apparaît pour certains comme une ségrégation. La voiture elle-même est une ségrégation. On a construit tout notre urbanisme sur une dépendance à la voiture. Plus on va habiter loin et plus on va être dépendant de la voiture. C'est quand on réfléchit en prospective une vraie difficulté. Et notamment quand on se place, quand on regarde un peu les enjeux liés au changement climatique. Le changement climatique nous impose une transition, une sortie des énergies fossiles. Et par là, on va être obligé de réduire la place de la voiture ou au moins de convertir une partie du parc.
Donc, ce n'est pas seulement dans les grandes agglomérations, en fait, ce que vous dites. Moi, j'ai lu ça sur le site de la Fondation Nicolas Hulot. Vous dites finalement, ces initiatives qui sont prises par les villes-centres peuvent servir d'impulsion et favoriser la transformation de la mobilité à l'échelle de la région.
Exactement. Et ce qui serait intéressant, c'est qu'au niveau du Grand Paris et au niveau de la région, qu'il y ait une vraie dynamique et une collaboration qui se met en place pour que ces initiatives soient et s'aiment. Ça ne se fera certainement pas sur le même modèle. C'est-à-dire qu'il faut aller innover, chercher autrement. Mais quand vous écoutez des jeunes de banlieue, comme l'année dernière c'était le cas quand on avait préparé la COP21, on avait été interrogé des jeunes qui nous disaient « Mais nous aussi, on a envie d'avoir des banlieues vertes, des banlieues où on peut circuler à vélo. » Nous non plus, on n'a pas envie forcément de vivre que dans des villes grises, même si chez nous, aujourd'hui, c'est pas beau. On a envie que ça le devienne. Et est-ce que demain, chez nous, ça pourrait être aussi une zone centrale où les gens ont envie de venir ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce ne serait que les centres urbains qui pourraient bénéficier de cette attractivité où les gens ont envie de venir passer un dimanche parce que c'est calme, parce qu'on respire mieux, parce que c'est agréable et parce qu'on peut rencontrer aussi des gens ?
Bah Mathieu Flonneau, c'est vrai que quand on pose la question qui a les moyens d'être piéton, et une des problématiques se pose entre ceux qui habitent le centre et ceux qui habitent à la périphérie. C'est vrai que c'est intéressant ce que dit Marie Chéron, c'est-à-dire pourquoi ne pas aussi en faire une politique globale, cette politique de piétonnisation, oui. Et offrir à ceux qui habitent à la périphérie des espaces agréables à vivre, comme on essaie d'en proposer de plus en plus aujourd'hui aux habitants des grandes villes.
C'est une évidence, mais pour le cas parisien, ce qui manque, c'est très clairement une gouvernance cohérente du Grand Paris, aussi en matière de transport. Aucun point là de divergence avec ce qui vient d'être dit, mais il y a une part de wishful thinking, une part de l'inidéal de cette transition mobilitaire qui n'est pas assumable par la société française en 2016. Et j'attire votre attention sur le risque pointé avec Jean-Pierre Orfeuille dans l'ouvrage que vous avez rappelé, Vive la route, vive la République, il y a un risque de populisme qui est lié à cette réduction ad dieselum des populations des périphéries qui finalement en fait des citoyens, je le maintiens, de seconde zone, pour ne pas réfléchir aussi plus loin aux conséquences, alors le mot est employé, de dépendance du système automobile. Bien sûr, une dépendance c'est plutôt morbide et c'est une réflexion qui est plutôt négative. Toutefois, cette dépendance, pour avoir écrit un livre récemment sur l'automobile pendant les 30 Glorieuses, je peux témoigner du fait que le phénomène historique, il faut pas céder au récit simplificateur, n'a pas été imposé. L'automobile a été désiré aussi par la société française, qui y voyait des emplois et de la progression sociale. Et cette donnée-là, on ne peut pas l'enlever. Il en reste quelque chose, vous l'avez évoqué aussi en commençant, c'est le mondial de l'automobile qui fera plus 1 million de visiteurs.
Pour rester sur cette notion de l'importance de l'automobile dans l'histoire et peut-être aussi dans le développement des villes, est-ce que si on prend par exemple l'exemple de Paris, Mathieu Flonon, on peut dire que Paris ne ressemblerait pas à ce qu'elle est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu l'automobile. Mais est-ce qu'elle serait par exemple moins rayonnante justement?
C'est une question historiquement qui n'a pas de sens et il ne faut pas céder aux anachronismes, et je vois beaucoup, alors malheureusement, beaucoup d'avanies notamment contre la politique de Georges Pompidou. Alors ce point-là, par ailleurs, est un des mes points de spécialité. Je suis désolé, Georges Pompidou a une vision, un grand dessin de la région parisienne qui était extrêmement noble. Lui-même habitait aussi en bord de Seine, lui-même était un humaniste, ne souhaitait pas gâcher la ville de Paris. Il était dans une perspective qui n'était pas malthusienne de l'espace public, une vraie pensée mixte de l'espace public dans un temps de croissance qui est probablement révolu à bien des égards, mais dont les espoirs ne sont pas révolus. Et lorsque la voie express est inaugurée, le 22 décembre 1967, pour avoir étudié les contre et les pour à cette époque-là, on est dans une vision assez somptuaire de la ville, effectivement, mais je dirais qu'on passe bien vite sur le plaisir du volant, bien vite sur le plaisir cinétique de parcourir d'ouest en est la capitale, dans les lieux d'excellence. Vous passiez à proximité de la Concorde, vous passiez devant la Conciergerie, ce sont des lieux spectaculaires. Alors que veut-on ? Bloquer progressivement un centre-ville, le laisser dans un entre-soi confortable, il y a véritablement des questions qui engagent, mais qui n'engagent pas politiquement au sens bassement politique du terme, qui engagent une vision collective de la société. On peut renoncer à cela, je pense qu'il y a aussi des visions alternatives qui peuvent avoir leur grandeur. Et ont été évoquées aussi les conditions historiques de ce lieu. Oui, effectivement, il n'est patrimoine mondial que depuis 1991. La Seine, jusqu'à une période très récente, n'était pas vue comme un lieu touristique. La Seine était utilisée, la Seine était industriellement présente dans Paris. Elle ne l'est plus.
On parle beaucoup évidemment ce soir de Paris, mais Paris, ça n'est pas la France, ça n'est pas toutes les grandes villes françaises. Hélène Régnier, est-ce que les problématiques qu'on évoque ce soir, on les retrouve quand même assez régulièrement dans les autres grandes agglomérations ?
Oui, il y a de nombreux points communs à ces projets de piétonnisation. Vous n'êtes pas sans savoir que Marseille a récemment piétonnisé son centre-ville dans le cadre de la requalification de ce centre-ville. Et ce qui est frappant, c'est que justement, c'est pas un projet de piétonnisation, mais cela devient, au moment de la mise en œuvre, un projet de semi-piétonnisation. Et derrière cette nuance, il se joue là aussi des enjeux sociaux. C'est que finalement, on n'enlève pas toutes les automobiles. Certains automobilistes continuent d'être accueillis, bienvenus, les visiteurs, les touristes, les cars de croisiéristes dans le cadre de la semi-piétonisation de Marseille. Et en même temps, on n'accueille pas non plus également tous les piétons.
C'est-à-dire ?
Certains piétons sont plus ou moins bienvenus, puisque ces lieux sont des vitrines métropolitaines. On a par exemple des dispositifs physiques, des aménagements à travers le mobilier urbain par exemple, qui excluent un certain nombre d'usages et d'usagers de ces espaces. Ça c'est la manière douce, si on peut dire. Il y a plus de bancs, très confortables pour stationner longuement, hein, on peut dire du mobilier presque anti-SDF. Et puis à ces dispositifs physiques s'ajoutent parfois aussi une myriade de règlements ou d'arrêtés municipaux qui viennent réguler les usages. Et certains piétons ne sont pas les bienvenus dans ces espaces piétonnisés.
Ça veut dire, Hélène Régnier, qu'on profite dans certains cas, en l'occurrence Marseille, de la piétonnisation, en tout cas de la semi-piétonnisation, pour trier une partie et des habitants et de ceux qui vont venir visiter le centre-ville ?
Oui, moi c'est ma thèse, elle est forte. Je me permets de l'énoncer après avoir assez scrupuleusement étudié un bon nombre de projets, que les enjeux de mobilité durable qui sont invoqués pour justifier ces projets masquent un agenda parfois plus ou moins caché, parfois assez explicite, de montée en gamme d'un centre-ville, en modifiant ses usagers, éventuellement sa composition sociologique et éventuellement ses commerces.
Est-ce que vous êtes d'accord avec, en tout cas, ce risque-là, Marie Chéron, de, à travers la piétonnisation, d'avoir une gentrification finalement des centres-villes, c'est-à-dire voilà une composition sociale qui devient de plus en plus homogène, mais en chassant, disons, les classes sociales les moins favorisées vers l'extérieur pour ne garder que ce qu'on appelle, en particulier à Paris, les fameux bobos.
Il y a ce risque et il faut pas le négliger. Mais c'est peut-être pour ça que les politiques publiques, doivent être co-construites. Doivent être construites par des démarches participatives. Alors effectivement, ça peut paraître un peu le discours un peu bateau, mais quand vous regardez le budget participatif aujourd'hui, les projets qui sont soumis au vote, il y en a de plusieurs qui sont sur la piétonnisation de tel morceau de rue, sur la requalification du cadre de vie, sur le verdissement de tel autre de tel square, sur le réaménagement de tel carrefour qui est trop dangereux. Et dans les descriptifs des projets, laissez des associations très très locales, hein, mais qui disent bien qu'elles ont envie d'améliorer le cadre de vie des familles, des enfants, des handicapés, des femmes, que ce soit plus sécure, etc. Et pour moi, en fait, il y a peut-être une volonté de gentrification dans les politiques quand elles sont menées d'en haut. Elles doivent être portées par le bas, par les associations locales, dans le cadre de démarches participatives. Il faut que les projets ils émergent d'en bas pour que ça réponde aux besoins de tous.
Oui, mais si ça émerge d'en bas, Marie Chéron, et que ça se passe dans des quartiers où, de toute manière, ceux qui sont là sont déjà des gens qui ont les moyens d'habiter, par exemple, en centre-ville, donc dans des zones qui ont vocation à bénéficier de la piétonnisation, on est un peu dans un cercle vicieux. De toute manière, ça va être une population qui va décider des aménagements qui lui sont les plus favorables, sans forcément penser à ceux qui sont à l'extérieur de
ces zones. Je pense que la participation et l'expression de souhait d'amélioration du cadre de vie, elle vient même avant. Elle vient avant qu'il y ait ce phénomène de gentrification.
Mathieu Flonneau ?
Oui, la montée en gamme qui est poursuivie par tous les centres-villes, et ce phénomène est sensible dans d'autres métropoles d'envergure mondiale, hein, New York, des villes comme Barcelone, des villes qui ont été étudiées. Et à certains égards, qui privilégie aujourd'hui une forme de tourisme permanent. Une forme, ça a été cité par Hélène Régnier, évidemment, les cars de tourisme, eux, sont bienvenus. C'est-à-dire qu'on a transformé la ville en un musée, dans lequel le citadin devient lui-même son propre spectateur. Et donc, tout a été dit, je pense, du festivisme contemporain par Philippe Muret, les déambulateurs approbatifs, pour être moi-même m'être rendu avec un lâche soulagement. J'habite en centre-ville, j'ai cette chance. Sur les quais de Seine, j'en profite. Évidemment, mais je vois ce qui est à l'œuvre. Je vois quelles sont les populations qui s'y retrouvent à partir de 20h le soir. Je vois, effectivement, ce que vous avez décrit. Et c'est au-delà de la gentrification. Et puis, on est quand même dans le choix d'une population. Ce fait est indiscutable. Ça se trouve ailleurs que sur les quais de Seine. Vous allez à la friche industrielle SNCF Grand Train. Vous voyez bien que les gens qui s'y trouvent n'ont rien à voir avec le territoire qui les entoure. Donc là, on est quand même dans une déconnexion. Je vous renvoie à une lecture. C'est le travail Un monde à la carte de Patrick Le Gallès, récente, travail qui montre bien qu'il y a une déconnexion, mais qui se retrouve dans d'autres sujets. La carte scolaire, des éléments très essentiels du pacte républicain français. Et donc, là, il y a une contradiction entre les politiques affichées et leurs réels effets.
Hélène Régnier.
Oui, mais tout ce qui vient d'être dit plaide pour politiser ces projets, ces enjeux. On a commencé en disant qu'il y avait urgence à freiner le système automobile, mais il y a au moins autant urgence à mettre au débat public et à l'agenda politique les effets sociaux de ces projets. Alors, il faut peut-être pas jeter toujours le bébé avec l'eau du bain, mais quand on sait que ces aménagements de la qualité urbaine, ils ont cette vocation, ils visent à revaloriser. Donc s'ils revalorisent, ils font monter les prix, donc ça signifie peut-être qu'il va aussi y avoir des politiques d'accompagnement en matière d'habitat. Voilà, ces effets sociaux de ces politiques publiques sont aujourd'hui pas à l'agenda, peu débattus.
Pour quelle raison, à votre avis d'ailleurs, c'est aussi peu débattu? Est-ce que c'est parce que c'est mal vu aujourd'hui d'avoir une position critique par rapport à ces politiques qui pourraient vous faire apparaître comme des défenseurs du lobby automobile, en gros, c'est ça, Hélène Radier?
Oui, bien sûr. Quand on commence à travailler sur ces questions et qu'on commence à être critique vis-à-vis de cette politique publique, mais critique dans le bon sens du terme, pour essayer de faire émerger une critique progressiste de ces politiques publiques, on nous dit assez vite, mais tu es pro-automobile. Non, voilà, en fait, on construit l'enjeu en opposant des gentils piétons et des méchants automobilistes, là où l'enjeu, il est en termes, je vais dire un gros mot, en termes de classe sociale, en termes de groupes sociaux et de la répartition de ces groupes sociaux dans la ville. Et cette lecture sociologique, sociale de ces enjeux, on ne la trouve malheureusement pas beaucoup pour ces questions de mobilité durable. Bon, on la trouve, peut-être que c'est une tendance lourde qui traverse bon nombre de secteurs d'action publique. On met l'accent sur la responsabilité individuelle des usagers. Vous êtes des bons, vous êtes écolo-responsables ou écolo-résistants, en ignorant les déterminants sociaux dans lesquels nous sommes tous pris, avec des distances qui n'ont cessé de s'allonger dans nos territoires de la vie quotidienne, avec une fragmentation du marché du travail à temps partiel, en intérim, en horaire décalé. On change de travail plus souvent, mais on veut en même temps pas déménager. Donc ça nous oblige à être très astucieux avec un mix de mobilité et avec la voiture. Et quand on parle comme ça de ces enjeux, là, on les attrape avec leur dimension sociale et sociologique.
Encore faut-il, pour pouvoir être astucieux, donc avoir les moyens de mettre en pratique ces astuces. Dans votre livre, Mathieu Flonneau, Vive la route, vive la République, vous dites notamment qu'il faudrait faciliter la mobilité résidentielle, notamment pour les projets de rapprochement du domicile vers le travail. Est-ce que ça voudrait dire, par exemple, qu'il faudrait imaginer des politiques fiscales où on pourrait, par exemple, pouvoir déménager en achetant ailleurs, en ayant, par exemple, moins de frais liés à cet achat? Est-ce que c'est comme ça aussi qu'il faut réfléchir?
Oui, il y a des péréquations qui dépassent très largement le simple secteur des transports et le simple secteur de l'usage modal. Enfin, plus personne aujourd'hui ne doit être prisonnier d'une guerre de religion modale. Et on voit que la résilience du système automobile, et là, il y a quand même une ironie de l'histoire pour quelqu'un qui étudie le système depuis un siècle quasiment, de voir que depuis une dizaine d'années, tiens, sous l'influence du numérique, l'automobile, sous les bénéfices cachés et vraiment duals et ambigus de l'ubérisation de l'économie, l'automobile pourrait redevenir éventuellement souple, sympathique, bref, favoriser l'autonomie de l'individu. On redécouvre vraiment l'eau chaude. Toujours est-il que, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, faire progresser le progressisme est une urgence. C'est-à-dire qu'évidemment, on partage les souhaits d'une ville plus accorde, plus sympathique et tout. Mais il faut voir ce qui est caché par derrière. Être mobile, moral, être momo, ça a un coût. Et ça a un coût pour soi. Je veux dire par là qu'on peut s'épargner, lorsqu'on habite le centre-ville de Paris, évidemment, se servir d'une voiture. Ça devient même un signe de distinction à l'envers. On n'en a plus. Parce qu'il y a tout le reste.
C'est une distinction à l'envers, c'est-à-dire quoi? Il y a une forme de condescendance du piéton par rapport à l'automobiliste qui
non,
considère
pas du piéton, mais celui qui bénéficie de l'effet d'aubaine du Vélib, qui ne coûte pas rien à la municipalité parisienne et donc aux impôts généraux, qui bénéficie du système avec toute la bienveillance
c'est quoi,
qu'il existe, le système autolique.
J'utilise un Vélib, c'est une forme de signe extérieur, payez... si ce n'est de richesse, en tout cas.
Non,
voilà,
je n'irai pas jusque-là, bien sûr que non. Mais ce que je veux dire, c'est que vous ne payez pas le service Vélib, le coût qu'il vous coûte. Qu'il coûte à la société, ça c'est une certitude. Donc il y a un coût à cela. Bref, il s'agit véritablement de redéfinir, et sans guerre de religion, et ça c'est difficile, évidemment. Et puis sans ostracisme, des chercheurs, mais des autres. Je connais des personnalités impliquées dans la définition de l'espace public qui sont désorientées par rapport à une tradition parisienne de finesse de l'approche de l'espace public, où justement la multiplicité des usages faisait l'intérêt de l'espace public parisien, et éventuellement le conflit d'usage. Et voir de ce point de vue-là, à ne pas moraliser et ne pas exclure dans le conflit d'usage. Et donc, je pourrais vous donner une liste des praticiens qui m'ont dit, il y a peut-être un message à faire passer là par rapport à une approche idéologique de l'espace.
Bon, Marie Charon, est-ce qu'avec ce discours critique sur les politiques de mobilité durable, on risque pas aussi finalement de ne rien faire et de considérer que le statu quo est peut-être la meilleure des politiques finalement? Est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque de l'inaction par rapport à ces critiques?
Ne rien faire serait la pire des choses. Je rappelle quand même qu'on a tout à l'heure j'insistais sur le côté, on a une transition énergétique à mener. Cette transition énergétique, elle doit être juste, et c'est toute la difficulté. Personne n'a dit que c'était facile. Maintenant, aujourd'hui, les transports, c'est 28% des émissions de CO2 en France, 35% des émissions de gaz à effet de serre. Si on prend en compte tous les gaz à effet de serre, il y a un gros défi sur les transports. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a un parc qui est largement dieselisé. Un des parcs les plus dieselisés en Europe, avec émissions de particules. Donc là, on est plus dans les polluants. Avec des coûts pour la société dans son entier. Il y a un rapport de Santé publique France qui est sorti en juin dernier. C'est 48 000 morts par an en France dû à la pollution de l'air, par les pathologies qui sont causées liées à la pollution. Est-ce que la société a les moyens de payer encore les coûts liés à la voiture, à l'utilisation, je dirais, non adaptée de la voiture? Il y a les moyens de baisser l'usage de la voiture, et je l'ai dit en toute introduction, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour mettre une croix sur la voiture, pour accuser les automobilistes, etc. Simplement, oui, il y a des politiques publiques en France qui ont favorisé l'usage de la voiture. Aujourd'hui, on se rend compte que ça a un coût. C'est un coût sur la santé. C'est les maladies cardiovasculaires, c'est le système nerveux qui est attaqué, c'est les maladies respiratoires, c'est les enfants, les femmes, les personnes âgées qui sont les plus vulnérables face à ces impacts-là. Et ça, aujourd'hui, il faut prendre la mesure de ce coût. Donc oui, ça coûte cher. Et je pense que la société paye plus pour ces mots-là que pour effectivement payer des services de mobilité partagée pour lesquels, oui, il y a un investissement à mener pour effectivement changer les comportements. Donc subventionner le Vélib, subventionner les Autolib, on sait que c'est problématique, on sait que c'est difficile, mais on sait aussi qu'il faut amorcer la pompe pour changer les comportements.
Donc ce que vous nous dites, il ne faut pas perdre de vue l'objectif principal qui est celui de la transition énergétique. La question qu'on pose ce soir, je vous la rappelle, Marie Charon, Hélène Régnier et Mathieu Flonneau, enfin vous ne l'avez pas oublié quand même, qui a les moyens d'être piéton? Il y a notamment le géographe Yves Rébaud qui évoque la discrimination qui peut être faite aux femmes par rapport justement à ces politiques de piétonnisation. Les piétons seraient davantage donc des urbains qui ont un bon niveau de salaire, mais qui sont aussi des hommes, les femmes pouvant se retrouver mises en insécurité en étant soit dans les transports en commun, soit dans la rue, et pourraient avoir davantage besoin, par exemple le soir, de rentrer en voiture. Et donc les politiques de piétonnisation pourraient aussi avoir un effet discriminant à l'égard des femmes. Vous en pensez quoi, Hélène Régnier?
Là, vous me posez une colle. Moi, je ne suis pas spécialiste de ces enjeux du genre.
Je ne sais pas si Mathieu Flonneau peut-être a davantage à nous répondre là-dessus. Vous répondez autrement, allez-y.
Voilà que on a parlé de l'investissement public. À qui profite l'investissement public, d'autant qu'on est en période de pas particulièrement très faste. Il est peut-être temps d'investir ailleurs que dans des projets prestigieux, dans des espaces symboliques, dans les hypercentres de nos métropoles.
Mathieu Flonneau?
Typiquement, les réinventer les places parisiennes. Voilà, je pense que l'espace public parisien, et je m'appuie là, je ne suis pas seul à le dire, heureusement, je m'appuie là sur la pratique de ces gestionnaires de la voirie, des ingénieurs de voirie parisiens, qui savent bien que la qualité de l'espace public parisien n'a rien à voir avec la qualité qu'on espère en banlieue, effectivement, voir se généraliser. Mais réinvestir des millions d'euros dans des places parisiennes qui ont été travaillées déjà et qui correspondent quand même aussi à une forme d'usage contemporain de la ville, bon, c'est peut-être pas la nécessité première. Mais sur la mixité du genre de l'espace, je dirais, je n'en suis pas du tout spécialiste, mais enfin, quand même, ça sent mauvais aussi à une certaine heure sur les quais de Seine. Ce ne sont pas les femmes qui urinent dans la rue. C'est clair.
Je ne comprends pas où vous voulez en venir.
Je veux dire qu'il y a une pratique de l'espace qui est compliquée et que ces espaces qui sont le soir réservés quand même à partir d'une certaine heure, ça devient délicat de s'y promener en famille et de s'y promener devant des comportements qui sont des comportements de presque de beuverie. Ça rentre en ligne de compte.
Donc la question de la sécurité, on va dire,
bien
peut
sûr.
Être aussi en tout cas un élément qu'il faut prendre en compte pour penser les politiques de piétonnisation. Il y a un dernier élément qu'on n'a pas encore abordé, qui est celui de l'impact économique que peuvent avoir ces politiques de piétonnisation, notamment sur les petits commerces de centre-ville. Est-ce que ça favorise ou non l'activité ? Écoutez ces témoignages de commerçants à Tourcoing et à Annecy.
Nous avons quand même des commerces en grande difficulté. Et c'est pas dans quelques mois qu'on pourra dire non, effectivement, cette rue, fallait pas la piétonniser, on va réfléchir, on va faire un petit effet rétroactif. On s'est bien rendu compte que pour nous, cet accès dans le centre-ville est primordial et que nous devons le garder comme ouverture sur notre centre que l'on appelle maintenant historique.
Aujourd'hui, les clients ont du mal à venir au centre-ville d'Annecy, ils ont du mal pour se garer, les parkings sont difficiles et sont très très souvent saturés. Et donc oui, nous craignons que d'une part ces travaux et d'autre part le fait que l'accès au centre-ville soit devenu plus difficile fasse partir nos clients vers la périphérie.
Voilà, extrait de reportage diffusé sur Grand Lille TV et sur Télé 8 Mont Blanc. Ce sont des considérations qui sont vraiment prises au sérieux par un certain nombre de villes, puisque par exemple à Saint-Étienne, où il y avait eu une politique de piétonnisation du centre-ville, la nouvelle majorité installée depuis les dernières municipales a organisé le retour des voitures dans le centre-ville avec création d'une zone 30, c'est-à-dire zone limitée à 30 km/h. La question de l'impact sur le commerce, Marie Chéron, là aussi c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, mais est-ce que ce sont des inquiétudes formulées par les commerçants qui sont des inquiétudes démesurées par rapport à l'impact qu'a la piétonnisation ?
Je pense que ces préoccupations, elles sont tout à fait légitimes, il faut les entendre, et encore, je reviens sur la même logique, c'est-à-dire que ces politiques de piétonnisation ou de semi-piétonnisation doivent être élaborées dans un cadre de co-construction avec les différents acteurs. Et il n'y a que comme ça qu'on fait progresser le débat public, qu'on fait progresser la vision
partagée. Et si les commerçants disent, nous on n'en veut pas de la piétonisation, justement. Nous on veut encore les voitures parce que les clients vont davantage acheter s'ils ont un coffre et donc de quoi le remplir.
Mais qui viennent l'expliquer autour avec les clients à la même table et avec les décideurs politiques. Je pense qu'il y a vraiment... Je pense qu'on évolue dans le débat et dans la confrontation des idées. Et ça, au niveau des transports, il y a vraiment besoin d'un débat public très, très, très localisé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et ce qui est important, c'est que il y a, de la même manière, il faut aussi prendre en compte les livraisons, les possibilités de pouvoir se faire livrer. Et là-dessus, il y a un certain nombre d'expérimentations et il y a encore des progrès à faire pour qu'on puisse mutualiser les moyens, qu'on puisse laisser les commerçants se faire livrer, quitte à inventer aussi de nouveaux services de nouvelles façons de faire pour répondre aux besoins des commerçants. Et ça, c'est des nouveaux services, des nouvelles activités et des nouveaux emplois aussi à la clé.
Mathieu Flonneau.
Bah écoutez, il y a effectivement des intérêts divers dans la ville. C'est leur confrontation qu'il s'agit d'organiser et de raisonner. En aucun cas, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est le retour de l'automobile sans gouvernance. Au contraire, l'automobile est un objet qui exige une gouvernance, qui a été contemporain de ses débuts. Le stationnement payant à Paris, lorsqu'il est imposé en 1971, ce qui est tard par rapport aux autres villes de France, par rapport à Lyon notamment qui était pionnière, eh bien le stationnement payant a fini par réguler la pratique, une certaine pratique de l'automobile, alors dans un périmètre bien déterminé, dans un premier temps.
Bah donc vous verrez que la piétonnisation aura le même effet.
Mais la piétonnisation, vous êtes dans une perspective différente, parce que vous excluez définitivement la voiture. Et ce n'est pas la même chose que de piétonniser, de rendre totalement piéton, ou de laisser un passage à 30 à l'heure, mettons. Donc on est quand même aussi devant, alors ça a été étudié, notamment par Cédric Ferriel, une typologie différente. La piétonnisation, c'est un mot valise qui... avec finesse, l'espace public doit être vu, avec esprit de finesse. Il faut être pascalien. On ne peut pas être dans une rhétorique massive et qui appliquerait massivement des choix idéologiques.
Et je pense qu'on n'aura pas été justement dans ce travers-là ce soir, à travers
je le pense.
Cette discussion à laquelle je vous remercie tous les trois d'avoir participé. Marie Chéron, Mathieu Flonneau, Hélène Régnier. J'en profite pour remercier nos confrères de France Bleu à Aix, en Provence, qui vous accueillaient ce soir. Un grand merci également à toute l'équipe du Grain. Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Isolde Sicard, Cyril Baer. Émission réalisée par Anne-Laure Chanel avec à la prise de son Anthony Thomasson. Demain, l'Arabie Saoudite est-elle infréquentable ? Ce sera notre question à partir de 18h20.